22h passées de 40 secondes sur Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Face à la colère des Français, Emmanuel Macron décrète l'urgence économique et sociale et il fait plusieurs annonces. Le SMIC augmentera de 100 euros dès 2019. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge également dès l'an prochain. Et puis autre annonce forte pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros par mois, il n'y aura plus de CSG, ils en seront exemptés. Le président incite également les chefs d'entreprise à verser une prime à leurs salariés. En revanche, pas question de toucher à l'ISF. Alors les Français et en particulier les gilets jaunes à qui le président s'adressait ce soir, ont-ils le sentiment d'avoir été entendus? On sera à leur côté dans un instant. On décryptera ensemble ce discours présidentiel avec Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron a-t-il fait suffisamment de concessions? A-t-il réussi l'exercice? On écoutera aussi les réactions politiques, dossier complet donc, après ce discours du chef de l'État. Autre responsable européen en difficulté ce soir, Theresa May, contrainte de reporter le débat sur le Brexit qui était prévu demain. On sera à Londres et puis on ira aussi à Belgrade avec Kylian Mbappé, le PSG qui joue gros demain en Ligue des Champions. Sans oublier votre rendez-vous tous les soirs avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Didier Kling.
Europe 1.
C'était donc ce soir le moment de vérité pour Emmanuel Macron. Le président s'est exprimé face aux Français pendant 13 minutes. Une allocution suivie par tous ces Français qui manifestent depuis près d'un mois. Allocution très solennelle au cours de laquelle le président a donc fait 4 annonces fortes.
Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019. Sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 est à mes côtés. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir Isabelle, bonsoir
vous
à tous.
Vous avez suivi évidemment ce discours présidentiel qualifié de crucial pour la suite de son mandat, crucial aussi pour la France et pour son économie qui souffre de cette crise des gilets jaunes. Alors Emmanuel Macron se devait de faire des annonces en écho aux revendications des gilets jaunes, c'est ce qu'il a fait.
Oui, des annonces notamment envers les Français les plus modestes. Alors on va les rappeler très brièvement. La suppression de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2000 euros, ça concerne environ 3,5 millions de foyers, me dit l'Élysée ce soir. Pour les salariés au SMIC, une hausse de 100 euros par mois grâce à un coup de pouce sur la prime d'activité. Ça, évidemment, ça ne coûte rien aux employeurs. Pour tous les travailleurs, des heures supplémentaires sans impôt ni charge dès janvier. Rappelons que c'est une mesure de pouvoir d'achat mise en place par Nicolas Sarkozy puis retirée par François Hollande. Elle va donc être remise en place. Enfin, Emmanuel Macron demande aux entreprises qui le peuvent de verser une prime en fin d'année, là aussi sans impôt ni charge. Alors voilà en somme ce qui fait dire au président qu'il décrète, je cite, « l'état d'urgence économique et sociale » pour l'entourage du président avec qui j'ai pu parler ce soir. C'est le signe que le chef de l'État a compris le message de la colère qui s'exprime dans le pays. Emmanuel Macron qui promet par ailleurs de réunir les grandes entreprises pour travailler sur plus de justice fiscale. Le président promet notamment aussi de s'en prendre à l'évasion fiscale et sur la maîtrise des dépenses publiques, même si là-dessus il ne donne pas particulièrement de détails. Avec de telles promesses, le gouvernement va devoir s'affranchir des fameux 3% imposés par l'Europe en termes de déficit. Le prix de la paix sociale, murmure-t-on dans la majorité. Pour l'instant néanmoins, aucun chiffrage. C'est le Premier ministre qui devrait donner plus d'infos demain. À Bercy ce soir néanmoins, on dit que c'est un effort, je cite, « sans précédent pour la France qui travaille ».
Alors Jean-Rémy, il y a quelque chose qu'on reprochait pas mal à Emmanuel Macron, c'est de manquer d'empathie. Eh bien ce soir, il a fait un vrai mea culpa.
Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Cela vient de très loin, mais c'est là, maintenant. Sans doute n'avons-nous pas su, depuis un an et demi, y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies. C'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Et ma légitimité, je ne l'attire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie. Je ne l'attire que de vous, de nul autre.
Alors cette attitude, ce mea culpa qu'on vient d'entendre, ces annonces dont on parlait, Jean-Rémy Baudeau, on voit que le chef de l'État tente de reprendre la main, mais sans pour autant changer de cap. Hein.
Oui, en réalité, Emmanuel Macron a multiplié ce soir les annonces, mais aucune ne va réellement à l'encontre de son programme présidentiel, ni des orientations prises ces derniers mois. Même sur l'ISF, le président a justifié à nouveau son retrait. Revenir en arrière nous affaiblirait, a martelé Emmanuel Macron. C'est la ligne que l'entourage du président a indiquée depuis plusieurs jours. Il ne s'agit pas de changer de cap réellement, mais de rendre les mesures plus accessibles, plus acceptables pour les plus grands nombres de Français. Aujourd'hui, un ministre me confiait, on ne va pas vivoter pendant 2-3 ans jusqu'à la fin du quinquennat. Si on veut réussir, on ne peut pas relâcher la pression. Bref, les réformes, elles vont continuer. Voilà pourquoi ce soir, le président a joué l'apaisement. Il a fait des annonces concrètes pour lancer la concertation, pour créer les conditions du dialogue en intégrant mieux d'ailleurs les partenaires sociaux et, notons-le, les maires qui ont été largement sortis du jeu ces derniers mois. Mais l'annonce de cette nouvelle méthode ne sera qu'un vœu pieux si le président ne l'accompagne pas d'un changement de ton. La personnalité du président a souvent été attaquée. Pour réellement pacifier le pays, il lui faudra faire preuve d'un peu plus d'humilité, notamment dans les prochaines semaines. Et ces quelques mots de mea culpa ne suffiront pas forcément à satisfaire les Gilets jaunes.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Alors justement, on a bien sûr envie d'entendre ce soir ces Français qui, depuis près d'un mois, bloquent les péages et les ronds-points et manifestent chaque samedi. Frédéric Michel, vous avez suivi ce discours présidentiel aux côtés d'une quarantaine de Gilets jaunes à la sortie de l'autoroute A8 au péage de Fréjus-Saint-Raphaël.
Effectivement, Isabelle, sur leur smartphone ou l'oreille vissée à la radio, les Gilets jaunes ont écouté attentivement le chef de l'État. Mais pour ces hommes et femmes rassemblés depuis un mois ici à Fréjus, le compte n'y est pas.
Vers Noël là, on lâche rien. À chaque fois, c'est de la poudre de perlimpinpin. On attendait quelque chose de fort, là, maintenant.
Si certains reconnaissent une petite avancée et un changement de ton du président, d'autres, ils étaient une majorité ce soir sur le rond-point, estiment avoir une nouvelle fois été méprisés.
Là où je suis déçu, c'est dans le fait qu'il ait fait un discours de seulement 13 minutes après un mois de mouvement. Donc encore un manque de considération pour le peuple français. Un discours écrit, un discours sans rien de concret dedans, sans le geste fort.
Et pourtant, le président a annoncé une hausse mensuelle pour les bas salaires de 100 euros, la suppression de l'augmentation de la CSG pour les petites retraites, mais rien n'y fait. Aucune annonce ne semble contenter les Gilets jaunes.
100 euros, c'est une goutte d'eau, c'est pas ça. C'est toutes les revendications qu'il faut qu'il entende, son peuple. On ne demande pas seulement une augmentation du SMIC, on demande une baisse des taxes. On demande à ce que l'État fasse des efforts sur leurs salaires, leurs avantages, une démocratie citoyenne.
Et ce soir, les Gilets jaunes continuent à occuper leur rond-point ici à Fréjus et promettent de ne rien lâcher.
Frédéric Michel, aux côtés des Gilets jaunes, donc près de Saint-Raphaël, dans le Var. Les premières réactions maintenant de la classe politique. Marine Le Pen estime que face à la contestation, Emmanuel Macron renonce à une partie de ses errements fiscaux. Et c'est tant mieux, dit-elle. Mais il refuse d'admettre que c'est le modèle dont il est le champion qui est contesté. Il recule pour mieux sauter. Tandis que pour Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, le président est à côté de la plaque.
Le président de la République a parlé. Il se trompe d'époque. Il a commencé par gronder le peuple pour les violences qui ont été commises sans dire un mot pour les victimes de celles-ci, qu'il s'agisse des gens qui ont été blessés ou meurtris, ou pour les forces de l'ordre, les uns et les autres, en quelque sorte enfermés dans une logique voulue par les politiques. Il a pensé qu'une distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection citoyenne qui a éclaté. Une partie considérable de la population n'est concernée par aucune des mesures annoncées par le président de la République. L'acte 5 du début de la révolution citoyenne dans notre pays sera un moment de grande mobilisation.
La réaction de Jean-Luc Mélenchon à cette allocution ce soir d'Emmanuel Macron. Pour le Républicain Éric Woerth, les réponses de ce soir, ce sont des réponses de court terme, des réponses de pouvoir d'achat nécessaires, mais avec leur part d'injustice. Tandis que Damien Abad, le député Les Républicains de l'Ain et vice-président LR, reconnaît lui aussi des avancées, mais insuffisantes.
On a un président de la République sous pression qui est obligé de lâcher du lest. Parce qu'après 18 mois d'erreur, eh bien, il est obligé aujourd'hui de reconnaître qu'il doit changer de cap et de trajectoire. Donc on a des avancées qui sont réelles, mais on a aussi des interrogations. On a des interrogations parce que ce sont essentiellement des dépenses nouvelles, non financées. Et on a aussi des grands absents. Les grands absents de ces annonces, ce sont les classes moyennes, c'est la question démocratique et c'est la question aussi de la fracture territoriale.
Le député Les Républicains Damien Abad au micro européen d'Aurélie Herbemont notait que le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, sera demain matin à 7h45 l'invité de Nikos Aliagas sur Europe 1. Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas sur ce discours présidentiel, cette allocution très attendue qui sera encore beaucoup commentée dans les prochaines heures, dans les prochains jours et notamment sur Europe 1 dès demain matin. Les principaux partis de gauche, de l'opposition, socialistes, communistes et France Insoumise attendaient cette intervention présidentielle avant de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Cette dernière sera examinée mercredi à l'Assemblée. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 avec une autre conséquence de cette crise des gilets jaunes. Ça concerne les radars automatiques. C'est une info Europe 1 et c'est du jamais vu. A tout de suite.
Europe 1.
Et si on parlait Renault Occasion ?
Chérie, montre à Martin nos photos de vacances.
Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud.
Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio.
Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion.
Ah oui, on peut pas la rater là.
Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h12 et c'est la suite de votre journal avec cette information que vous avez peut-être entendue aujourd'hui sur Europe 1. Depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes, il n'y a jamais eu autant d'attaques contre les radars automatiques. La moitié d'entre eux sur tout le territoire est carrément hors service, Guillaume Bier.
Oui, c'est du jamais vu. Hein. Autant d'attaques de radars en si peu de temps. Depuis 3 semaines, d'après nos informations, plus de 250 appareils ont été détruits, incendiés la plupart du temps. Il y en a encore eu 6, pas plus tard que la nuit dernière. On compte aussi plus de 1500 actes de dégradation, souvent des cabines peinturlurées ou recouvertes de plastique. Au total, 50% des radars ont été ou détruits ou vandalisés. Dans certains départements ruraux, c'est même la quasi-totalité des appareils. Et pourtant, bien malgré cette situation inédite, pas un mot du côté des préfectures, encore moins du côté de la sécurité routière. Sujet tabou, refus catégorique de communiquer par peur, je cite, d'un effet contagion. Pas de commentaires et pendant ce temps, bien, les dégradations se multiplient. Ça avait déjà commencé l'été dernier avec le passage à 80 km/h. Ça s'accélère là avec les gilets jaunes. La facture sera très salée. Ça se chiffre déjà en millions d'euros, sans compter le manque à gagner avec le nombre de flashs qui est forcément en chute libre. On rappelle que pour les auteurs de ces destructions, les sanctions encourues sont lourdes, jusqu'à 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende s'ils ont agi à plusieurs. Mais les arrestations sont plutôt rares. À Toulouse, il y a quelques jours, 3 gilets jaunes qui avaient incendié des radars ont été condamnés. 3 mois de prison avec sursis, 100 heures de travail d'intérêt général. Et surtout, ils vont devoir rembourser les dégâts.
Les précisions de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 concernant les violences de ce week-end. Pour la seule journée de samedi, acte 4 de cette mobilisation, près de 2000 personnes ont été interpellées. Un chiffre record, 1709 placés en garde à vue. Les comparutions immédiates ont commencé aujourd'hui à Bordeaux, par exemple. Un jeune majeur a été condamné à 10 mois de prison, dont 6 avec sursis pour avoir volé un iPad pendant le pillage de l'Apple Store. Et ça se complique pour le Brexit. Theresa May n'arrive pas à convaincre les députés du bien fondé de l'accord qu'elle a pourtant conclu avec l'Union européenne. Du coup, elle a annoncé cet après-midi devant le Parlement le report du vote qui devait avoir lieu demain. Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Sébastien, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, elle fait le constat que tout le monde pointait, en fait, c'est qu'elle allait dans le mur. Ce vote n'avait aucune chance d'aboutir à une issue positive. Une centaine de députés de son propre camp s'apprêtaient à voter contre, notamment à cause de la question nord-irlandaise. Et donc, Theresa May, coincée, a préféré, sur les conseils de ses ministres, repousser l'obstacle à une date qui n'est pas précisée. Ça pourrait même attendre janvier. Et on voit bien qu'elle n'a pas vraiment d'alternative à proposer. Elle explique qu'elle va retourner discuter avec les Européens, mais peu de chances qu'elle obtienne mieux que quelques modifications cosmétiques. Il n'y aura pas de nouvel accord. Et donc, préparez-vous à assumer les conséquences. C'est ce qu'elle a dit clairement. Le gouvernement accélère ses préparatifs en vue d'un Brexit sans accord. Donc un saut complet vers l'inconnu. Et je peux vous dire qu'ici, du côté de la City, pour avoir discuté avec des financiers, cette incertitude qui monte encore d'un cran n'est pas du tout une bonne nouvelle. La preuve, la livre sterling s'est effondré cet après-midi à son plus bas niveau depuis presque 2 ans.
Et on y reviendra dans un instant justement avec Claire Lemaître de Boursier.com. C'était Sébastien Krebs, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Carlos Ghosn pourrait ne pas sortir de prison avant Noël. Il a été inculpé aujourd'hui pour dissimulation de revenus et sa garde à vue a été prolongée en raison de nouvelles accusations, de nouveaux soupçons de minoration de revenus, cette fois entre 2015 et 2018. Patrick Dils, entendu ce matin dans le procès du double meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986. Aujourd'hui, c'est le tueur en série Francis Holm qui comparaît, mais pendant 15 ans, c'est Patrick Dils qui a purgé une peine de prison dans cette affaire avant d'être innocenté. J'ai perdu 15 ans de ma vie pour ça, a-t-il dit. À la COP24, qui se tient en ce moment en Pologne, les États-Unis et l'Arabie Saoudite sous le feu des critiques, accusés de soutenir les énergies fossiles responsables du changement climatique et de minimiser les alertes des scientifiques. Et puis le foot, nous sommes à J-1. Les Parisiens sont arrivés à Belgrade où ils vont disputer demain face à l'Étoile Rouge un match capital en Ligue des Champions. Paris joue sa qualification pour les 8e de finale. Alors il y avait une incertitude concernant Neymar. Finalement, la star brésilienne a bien pris l'avion avec ses coéquipiers, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il jouera, mais c'est quand même un signe qu'il va mieux. Quant à l'autre star, Kylian Mbappé, il sait que ça va être compliqué, mais il y croit.
Il y a un avant et un après Liverpool. Je pense que voilà, on a fait quelque chose de beau. On a su montrer qu'on était capable de répondre à l'intensité d'un match que demande la Champions League. Maintenant, il va falloir confirmer. Il faut être dans la continuité demain et pas se relâcher, parce que je pense que ça ne rimera à rien d'avoir fait le match qu'on a fait à Liverpool si c'est pour être éliminé demain soir.
Kylian Mbappé au micro Europe 1 de Julien Froment. Ce match demain, vous pourrez le suivre évidemment en fil rouge sur Europe 1. Rencontre sous très haute surveillance car à haut risque sur le plan de la sécurité. Et puis le PSG qui par ailleurs bénéficie d'un tirage plutôt très facile en 32e de finale de la Coupe de France puisqu'il tombe sur Pontivy, club de 5e division. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. On amorce une parenthèse hivernale, Elena.
Et oui, avec des gelées matinales et du brouillard bien présent demain sur l'ensemble du pays, sans oublier la neige qui tombera à 300 mètres sur les Vosges, 600 mètres sur les Alpes du Nord. Ça va floconner hein, le matin seulement. Ce sera plus sec, plus clair dans ce secteur l'après-midi. Alors les brouillards seront tenaces hein, sur les plaines du Nord-Est jusqu'au Val-de-Saône et au Lyonnais. Quelques plaques résistantes également dans le midi toulousain. Ailleurs, vous aurez un ciel d'éclairci, un peu moins belle, c'est vrai, sur la Bretagne et la pointe du Cotentin, sous les nuages qui précèdent la pluie pour mercredi. Les régions méditerranéennes resteront à l'écart sous un ciel bleu et du mistral à 50 km/h. Alors les températures, après les gelées matinales, comptaient sur 3 petits degrés à Langres, 5 à Belfort et Saint-Étienne, 6 à Strasbourg, 7 à Lille, Auxerre, Clermont-Ferrand, 8 pour Bourges et Lyon, 9 au Havre, à Paris et Toulouse, 10 à Caen, Rennes et Périgueux, 11 pour Bordeaux et 13 à 16 degrés sous le soleil méditerranéen. Le froid va s'accentuer jusqu'à vendredi, puis retour de la douceur pour le week-end, douceur qui devrait se maintenir jusqu'à Noël.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Juste avant, l'invité écho d'Emmanuel Duteil. Il reçoit ce soir le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Didier Kling. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h19 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et encore beaucoup de nervosité ce soir à Wall Street. Hein.
Oui, beaucoup de volatilité et des indices qui ont hésité après la chute de vendredi. Finalement, le Dow Jones rebondit de 0,14%, 24 423 points. Le Nasdaq, lui, gagne 0,74%, 7021 points. Ça reste tout de même fragile avec beaucoup d'inquiétudes toujours pour la croissance mondiale. Et puis le Brexit aussi attise les craintes avec la menace d'un Brexit dur, un Brexit sans accord qui se rapproche dangereusement. Le géant Apple a pesé sur les marchés avant de se reprendre. Le titre gagne 0,7% malgré les menaces de Qualcomm, son compatriote, le fabricant de puces, qui aurait réussi à faire bloquer provisoirement les ventes d'iPhone par un tribunal chinois. Toujours dans le secteur technologique, ça remonte pour Microsoft, plus 2,6%, pour Facebook, plus 3,2%, pour Amazon, plus 0,7%. Ça baisse en revanche pour les pétrolières. Chevron et ExxonMobil sont dans le rouge. Le baril de brut repart déjà en repli de 3% avec un WTI à 51$. Et côté devise, l'euro perd 0,2%. Il s'échange contre 1,1352$. Et à Londres, la livre sterling a plongé de 1,3% face au dollar après l'annonce du report du vote sur le Brexit. Car la première ministre, Theresa May, anticipait un échec.
Alors le CAC 40, lui, passe sous la barre des 4800 points ce soir, Claire.
Ouais, le CAC 40 avait déjà chuté de près de 4% la semaine dernière et ça ne s'arrange pas puisqu'il perd encore 1,47% ce soir. Il retombe à 4742 points. C'est Renault qui signe la plus forte baisse du CAC, moins 4%, alors que la justice japonaise a mis en examen Carlos Ghosn pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de sa rémunération versée par Nissan. La détention de Carlos Ghosn a aussi été prolongée. Et puis encore une séance compliquée pour les valeurs liées au pétrole. Technip FMC repère 4,6%. Total, moins 1,7%. Valourec, moins 7,3%.
Et le secteur du luxe a encore souffert.
Avec un recul de 2,5% pour le numéro 1 mondial du secteur LVMH. Hermès perd 2,5%. Kering, moins 2%. Eramet plonge de 24%. Le groupe minier a découvert des dysfonctionnements dans sa branche alliage. L'impact sur les résultats pourrait être très lourd. Et puis très peu de valeurs résistent sur le CAC ce soir. Carrefour gagne 0,6%. On a Sanofi aussi qui monte de 0,5%. Les marchés européens ont terminé en fort repli, moins 0,8% pour le FTSE à Londres, moins 1,5% pour Francfort, moins 1,7% pour Bruxelles et Amsterdam, moins 2,2% pour Zurich. Madrid et Milan perdent 1,8%. Et le CAC, lui, cède 1,5%. On est à 4742 points.
Merci pour ce tour d'horizon très complet. Claire Lemaître de Boursier.com. Et à 22h22 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité éco. Avec vous, Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Emmanuel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Bonsoir Didier Kling.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Vous avez, comme nous, j'imagine, écouté ce soir le président Emmanuel Macron qui a fait un grand discours avec des annonces, des gages tout de suite pour essayer de répondre à l'urgence et puis une sorte de vision pour l'avenir avec notamment une réforme de la fiscalité. Vous êtes donc à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a beaucoup d'entreprises au sein de la Chambre de commerce. Le président de la République a appelé les entreprises qui peuvent le faire à verser une prime exceptionnelle de fin d'année. Vous avez l'impression que du côté de vos membres, c'est quelque chose qu'ils sont prêts à faire ?
Oui, alors vous savez que nos membres, ils sont assez nombreux, effectivement, c'est toutes les entreprises de l'Île-de-France, donc 700 000 entreprises de tout secteur et de toute taille. Donc je trouve que dans les propositions du président de la République ce soir, cette idée, on reviendra peut-être sur les autres sujets, mais cette idée sur laquelle les entreprises devraient, si elles le peuvent, verser une prime de 100 euros qui ne serait soumise à aucune charge sociale et fiscale, est une bonne idée. D'ailleurs, nous l'avions dit. Les seules conditions que nous avions posées, c'était évidemment, il ne faut pas que ce soit obligatoire, parce que ce serait un impôt nouveau, et précisément, on ne veut plus d'impôt nouveau. Et la deuxième condition, il faut que ce montant soit proportionné à la capacité de l'entreprise. Certaines pourront le faire, d'autres devront nécessairement dimensionner différemment.
Donc, si je vous entends bien,
pas la même possibilité.
Si je vous entends bien, tous vos membres qui peuvent le faire vont donc le faire. Vous étiez positif pour une telle idée.
Absolument, c'est ce que nous leur recommandons. Ça me paraît une bonne chose.
Alors, c'est une bonne chose. Il y a eu également beaucoup d'annonces qui reposent sur les entreprises, même si officiellement, ça n'aura pas de coût pour les entreprises. On a appris également ce soir qu'il va y avoir une sorte de coup de pouce au SMIC, même si sans rentrer dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'a expliqué le président de la République. Il a annoncé 100 euros en plus. C'est pas tout à fait ça. C'est la prime d'activité qui va augmenter et qui va venir permettre d'augmenter de quelques dizaines d'euros ceux qui sont autour du SMIC. Malgré tout, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qui est de nature à rassurer les collaborateurs qui sont payés au SMIC ?
Oui, c'est aussi une bonne idée, mais il faut tout de même rappeler que la crise que nous vivons, ce n'est pas une crise qui est née dans l'entreprise. C'est une crise qui est beaucoup plus large, qui est une crise politique et sociale. Ce qui veut dire que les personnes qui se retrouvent porter un gilet jaune aujourd'hui ne sont pas uniquement des salariés qui travaillent en entreprise. Quand je discute avec des gilets jaunes, je vois aussi beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, je vois beaucoup de personnes qui exercent une activité indépendante, je vois beaucoup de retraités. D'où la décision prise, annoncée aujourd'hui par le président, qui vise à dire qu'il y a plusieurs modalités qui doivent être mises en œuvre. Celle que vous visez ici, c'est une bonne idée parce que ça permet de distribuer du pouvoir d'achat sans que ça coûte quoi que ce soit à l'entreprise. Et donc, c'est plutôt bien de ce point de vue.
Mais ce que j'entends, c'est que vous nous dites ce soir sur Europe 1, Didier Kling, on est prêt à prendre notre part de responsabilité. Et vous dites d'une certaine manière, chiche, si on peut le faire, on va y aller.
Absolument. Le problème est plus vaste que le nôtre, mais les entreprises, pour ce qui les concerne, apporteront leur contribution et disent chiche, nous, quand on pourra le faire, oui, on doit le faire.
Parce que dans la même logique, le président de la République a annoncé ce soir une défiscalisation et une désocialisation des heures supplémentaires. Alors, là aussi, c'est la bonne logique, ça arrive au bon moment, c'est une bonne réponse pour tout le monde ?
Oui, c'est une bonne réponse. La France était dans une dynamique économique. Si vous regardez les chiffres au troisième trimestre, la France a progressé plus vite que la moyenne européenne. Et donc, il ne faudrait pas casser cette dynamique. Et donc, les entreprises ont du travail, les carnets de commandes se remplissent, les gilets jaunes ont malheureusement interrompu cette dynamique. Il est important de reprendre très rapidement le mouvement. Donc, l'idée est bonne aujourd'hui de dire aux entreprises, si vous avez des heures supplémentaires à demander aux salariés, eh bien, vous paierez ces heures supplémentaires, c'est normal, le travail doit rapporter, mais il n'y aura pas de charges fiscales et sociales. C'est une erreur dans le passé d'avoir abandonné cette idée, cette proposition, cette initiative.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit ces dernières heures que la situation économique était catastrophique après la crise des Gilets jaunes et ces samedis de violence et de nombreux magasins fermés, notamment en Ile-de-France, mais pas qu'en Ile-de-France. Mais c'est vrai que la situation a été une fois de plus très compliquée ce week-end à Paris. Vous aussi, Didier Kling, patron de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, vous diriez que la situation est là, à quelques jours de Noël, catastrophique ?
Oui, exact. J'étais dimanche matin sur le terrain, boulevard Haussmann, où j'ai rencontré le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire. Nous avons fait le constat d'un certain nombre de commerces qui ont été ravagés, qui ont été totalement démolis, qui ont été pillés. Nous avons les chiffres qui montrent que trois samedis, quatre samedis de suite, c'était soit des fermetures de magasins, soit des magasins qui n'ont pas pu fonctionner normalement parce que les clients ne pouvaient pas venir. Et on parle là uniquement du commerce, on ne parle pas de l'industrie qui elle-même ne peut pas produire de manière normale parce qu'il y a beaucoup de centres de triage, de ronds-points qui sont bloqués, et les marchandises n'arrivent pas. Donc c'est toute l'économie qui est grippée. C'est d'autant plus grave que le mois de décembre est un mois particulier. C'est pour beaucoup d'entreprises un mois double, voire un mois triple.
Mais on voyait par exemple qu'hier à Paris, le reportage en tout cas que Justin Morin, notre reporter, a fait hier du côté des grands magasins, disait qu'ils avaient été littéralement pris d'assaut hier. Rien n'est rattrapable, c'est-à-dire vraiment ce qu'on perd le samedi, on le récupère jamais.
Mais écoutez, ce n'est pas rattrapable totalement. D'abord, il y a tout ce qui intéresse les fournitures alimentaires, ça c'est pas rattrapable. Les denrées, si elles ne sont pas consommées rapidement, elles sont perdues. Et puis ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'il y a, dans ce qui est rattrapable, il y a un transfert très important qui était opéré vers les plateformes numériques. Donc, c'est-à-dire que le commerce physique perd une partie de son...
Mais vous avez des données précises là-dessus ? Vous savez de quel pourcent le commerce numérique a progressé ces dernières semaines ?
Alors, oui et non, dans la mesure où vous avez certaines plateformes comme Amazon qui ne publient pas leurs chiffres. Donc là, on a un peu du mal à savoir. Par contre, vous en avez d'autres qui, aujourd'hui, donnent quelques éléments et qui permettent de voir qu'il y a des transferts qui sont relativement importants, qui sont intervenus.
Donc là, vous lancez un appel solennel pour que ce week-end, ça s'arrête après ce geste d'urgence. Tout le monde maintenant se met autour de la table, travaille aux mesures également qui vont être annoncées dans les mois à venir.
Ah oui, vous avez, sauf erreur de ma part, les chiffres qui sont connus jusqu'à présent montrent qu'il y a une baisse très forte des achats sur Internet, avec des hausses des achats de l'ordre de 15 à 20%. C'est tout de même très important. Donc ça veut bien dire qu'il y a ici un mouvement, un transfert vers des plateformes qui ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes contributions sociales et fiscales que le commerce physique.
Eh bien, un grand merci en tout cas d'être intervenu ce soir sur Europe 1. Didier Kling, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20. Merci beaucoup.
À demain, Emmanuel Duteil. Merci à vous. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ?
Europe 1. Et si on parlait Renault Occasion ?
Chérie, montre à Martin nos photos de vacances.
Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud.
Ça a l'air beau, ce village. Enfin, derrière votre Clio.
Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion.
Ah oui, on peut pas la rater, là.
Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Pouvoir d'achat, les réponses fortes de Macron, titre le journal Les Échos, qui détaille les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État et qui revient sur son mea culpa. Plus de 10 milliards pour calmer la colère, titre le journal L'Opinion. Macron a voulu montrer qu'il a compris les ressorts de la crise des gilets jaunes. Dans un discours empreint d'humilité, il a tenté d'y répondre, décrétant l'état d'urgence économique et sociale. Je vous ai un peu compris, titre pour sa part Libération, qui concède que le chef de l'État a annoncé 100 euros de plus pour les salariés au SMIC ou encore l'annulation de la hausse de la CSG pour les petites retraites. Mais pour le reste, écrit Libération, le flou demeure. Tandis que l'Humanité titre « Pas touche aux riches », le chef de l'État lâche un peu de lest pour mieux préserver ses réformes antisociales à venir. Il a dû concéder l'injustice de sa hausse de la CSG pour les retraités. Côté salaire, en revanche, on est bien loin du compte, écrit l'Humanité. Et puis pouvoir d'achat, débat national, le nouveau contrat de Macron, écrit sobrement le Figaro, qui, comme tous vos quotidiens, décrypte cette intervention présidentielle tellement attendue. Voilà pour ce tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et passez une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Actualité très riche ce soir.
Oui, vous avez évidemment, vous êtes sur le pont, vous.
Je vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour un nouveau flash.